Vous écoutez, on lit pour vous.
Mémo QC, une tierce personne qui vous appuie et vous soutient. Un texte d'Adèle Liliane Ngoembe-Nkot, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Lors d'une rencontre du comité consultatif de Mémo QC dont elle est membre, Jody Nengley avait appris qu'il y existait une clinique externe à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay, IRGLM, qui s'occupe de toutes les problématiques spécifiques de santé qui touchent les personnes lésées médulaires de l'ouest du Québec. Elle était surprise d'apprendre cette nouvelle, car son médecin de famille, ainsi que plusieurs soignants qu'elle a rencontrés au cours des dernières années, ne lui ont jamais parlé de cette clinique dont elle aurait eu grandement besoin. En novembre 2022, l'équipe de défense des droits de Mémo QC a ouvert un dossier avec elle. Nous l'avons soutenue pour des problèmes concernant ses services de soutien à domicile et une relation compliquée avec certains intervenants de son CLSC. Elle avait également besoin d'être vue à la clinique externe de l'IRGLM. L'implication de l'équipe de défense des droits dans son dossier a contribué à améliorer ses services et à mieux répondre à ses besoins au niveau de son CLSC. L'équipe l'a également orientée, soutenue et accompagnée dans les démarches qu'elle a entreprises pour obtenir une admission temporaire à l'IRGLM. Elle y a été admise et cela a été très bénéfique pour elle, car elle y a fait de nouveaux apprentissages qui ont largement contribué à améliorer sa qualité de vie. C'était Mémo QC, une tierce personne qui vous appuie et vous soutient. Un texte d'Adèle Liliane Ngoembe-Nkot, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad.
Dossier des rentes de retraite, témoignage. Victime de la pénalité, Régent Bergeron et sa femme se sont battus au tribunal pour obtenir réparation. Un texte d'Aline Vacon-Pernol, paru dans la revue Paraquad dans le numéro 164 à l'automne 2024. Régent Bergeron est une des cinq personnes qui a porté plainte au tribunal administratif du Québec en 2018 pour obtenir l'abolition de la pénalité discriminatoire au régime des rentes du Québec et la compensation de toutes les années durant lesquelles il a été pénalisé sur sa rente de retraite. Avec sa femme, Francine Arguin, ils ont bataillé en justice pendant près de 6 ans. Mémo Québec les a aidés en finançant les frais de l'avocat qui leur a permis de porter cette action en justice. Aujourd'hui, pour eux, la victoire n'est pas totale. Ils demandent toujours la rétroaction. Régent Bergeron et Francine Arguin sont soudés. Ensemble, ils ont franchi bien des épreuves qu'ils n'auraient certainement pas imaginées si grandes. Ils n'avaient certainement pas imaginé à quel point ils auraient à batailler, presque jusqu'à l'épuisement, jusqu'à venir ébranler les défenses du roc. Francine, à 58 ans, Régent, Grutier, est frappé par un infarctus. En octobre 2011, il se fait opérer d'un quadruple pontage, une opération à cœur ouvert. Régent ne sera plus tout à fait le même après cette opération et cette tragédie qui les touche, lui et sa femme Francine. D'autant qu'il en sort avec des séquelles. Blessé au pied, il ne peut plus chausser de chaussures de sécurité et ne peut plus non plus monter dans une grue, car il souffre de problèmes cardiovasculaires. Les deux premières années, Régent touche son assurance chômage, puis l'assurance salaire, mais à 60 ans et 3 mois, tout est terminé. Comme Régent ne peut plus exercer son métier, en avril 2013, il est déclaré invalide par son médecin. Quand il complète les papiers, la rente d'invalidité lui est accordée presque automatiquement. Le cadeau des 65 ans. Ce n'est qu'aux 65 ans de Régent, en avril 2018, que le couple reçoit un cadeau, comme il le dit. Il s'aperçoit que Régent n'est désormais plus invalide, mais juste un petit vieux. Il touche désormais une rente régulière, mais une rente pénalisée, car il a touché la rente d'invalidité. Dans la lettre de retraite Québec, apparaissait une baisse de 500 $ par mois, de 1210,37 $ à 728,94 $. C'était quelque chose, commente Francine. Nous avons alors contesté à tous les paliers de la régie des rentes. On n'était pas d'accord, mais nous n'avons pas gagné. Il fallait faire appel à un plus haut niveau. Nous ne savions pas comment nous y prendre. J'ai même fait des démarches pour rencontrer notre député de Chaudière-Appalaches. Je pensais qu'il était sensible et qu'il nous aurait aidés. Mais je n'ai jamais reçu de réponse. C'est à ce moment-là que nous avons contacté Mémo Québec. C'était Sarah Limoges au début, suivie par Annabelle Grenon-Fortin, explique Francine qui raconte l'histoire au nom du couple. Régent et Francine sont très reconnaissants de l'excellent service rendu par l'organisme durant toutes ces années. Heureusement qu'il y a eu ces gens-là, parce qu'émotivement, ce n'était pas facile de passer à travers tout ce qu'on a vécu. C'est un organisme merveilleux et très aidant. Sans Mémo Québec, on n'aurait pas pu continuer. On a été soutenus et guidés dans tout ça, se réjouit la conjointe de Régent. Le tribunal leur donne raison. Mémo Québec a soutenu Régent financièrement depuis le premier jour de sa bataille judiciaire. Francine se souvient de la joie que le couple a ressentie lors de l'annonce du jugement favorable le 28 juillet 2023 pour lui et pour les quatre autres dossiers portés devant le tribunal. Je me pinçais, je n'y croyais pas. Nous avions gagné après tant d'années d'efforts. Mais la joie a duré 30 jours. Ensuite, le gouvernement a fait appel. Je me suis demandé si on allait voir la fin de ce mauvais roman-là, se désole Francine. Elle est indignée par l'attitude de l'État. En plus de l'incapacité de Régent, le gouvernement nous a tapé dessus. Ce sont des gens démunis et affaiblis qui touchent la rente d'invalidité et on leur afflige une double pénitence. Financièrement, en plus des dépenses de la vie courante, Régent doit aussi payer ses médicaments chaque mois. Lors du jour fatidique de son 65e anniversaire, son fonds de pension a déjà été diminué de 75% après avoir été retiré de façon accélérée. Francine, de son côté, a pris sa retraite anticipée en juin 2012 à cause de la maladie de Régent. Un combat judiciaire très éprouvant. Ce combat judiciaire a été très difficile et éprouvant. Le couple a connu énormément de découragement. Régent était affaibli par la maladie et par les problèmes financiers. Quand on recevait des réponses négatives, j'en pleurais. Je n'étais plus capable, se souvient tristement Francine. Régent, lui, n'aurait jamais pu continuer sans sa conjointe, tellement la situation affectait son moral. Une chance que Francine était là. Moi, j'aurais tout lâché. Je lui disais « Fais-le, je ne suis plus capable », répétait-il dans un souffle. Pour elle, il s'agissait d'une question de principe, de justice. Je n'étais plus capable de lâcher. Je me disais, c'est discriminatoire, c'est une injustice, ce n'est pas correct. On ne peut pas faire ça à des gens déjà invalides, se révolte-t-elle. Francine se réjouit de l'annonce de l'abolition de la pénalité. C'est une victoire. Au moins, l'avenir est plus juste qu'il n'était. Tant mieux si ça aide les autres aussi. Nous le faisons pour nous et pour les autres. Et qui n'est pas fini. Pour Régent et Francine, la bataille n'est cependant pas terminée. Ils ne comprennent pas ce que le gouvernement attend pour appliquer la décision du tribunal. Cet acharnement contre les invalides de la part du gouvernement est aberrant et honteux. Il a l'opportunité de se servir de cette judicieuse décision rendue par son organisme, le Tribunal administratif du Québec, et de redorer son image en corrigeant cette injustice faite par le passé aux personnes âgées déjà affaiblies par la maladie. J'espère de tout cœur qu'il va changer d'avis. Pour le moment, nous sommes encore dans l'impasse, s'attriste Francine. le couple demande une rétroaction des sommes dont il a été privé à cause de la pénalité. 2013. Mémo Québec a désormais une idée assez claire du dossier, un dossier qui touche toutes les personnes recevant une rente d'invalidité, pas seulement les personnes en situation de handicap. Considérant l'impact du dossier, le comité de travail décide de chercher l'appui d'autres organisations pour le soutenir. Mais trouver des alliés s'avère difficile et les autres organismes hésitent à s'investir. 2014. Les membres du comité de travail de Mémo Québec demandent à deux organismes responsables de protéger le public, le Protecteur du citoyen et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, de se prononcer sur le dossier. Mais les deux instances se renvoient la balle. La Commission considère qu'il s'agit d'un dossier de nature administrative relevant du Protecteur du citoyen et ce dernier, pour sa part, considère qu'il s'agit d'un dossier de discrimination relevant de la Commission. Le comité de travail de Mémo Québec parvient, en décembre, à rédiger un premier mémoire. Ce document très fouillé permet de démontrer fiscalement les impacts de la mesure sur les individus et construit un argumentaire venant démonter les arguments de la Régie des rentes du Québec. Il vise à alerter les diverses instances de l'existence de cette pénalité et des conséquences qu'il en coûte aux personnes concernées. Mémoire. Régime des rentes du Québec et personnes handicapées. Quand une retraite rime avec discrimination. Déposé dans le cadre de la consultation publique, consolider le régime de rente du Québec pour renforcer l'équité intergénérationnelle. Moelle épinière et motricité Québec, réinventer l'autonomie. Le mémoire publié par Mémo Québec. Des représentations sont menées auprès de l'Office des personnes handicapées du Québec pour qu'il appuie le dossier et fasse des recommandations auprès du gouvernement. L'organisme rencontre également des députés de l'opposition et demande au gouvernement de corriger la situation. Cependant, le gouvernement de l'époque formé par le Parti québécois à l'origine de la mise en place de cette pénalité ne manifeste aucune volonté d'écoute. Lors de chaque représentation faite auprès d'instances gouvernementales, l'équipe de Mémo Québec se fait dire qu'elle doit attendre la consultation publique du RRQ afin de faire valoir la position de l'organisme. Cette consultation est une procédure qui a lieu tous les 6 ans pour recueillir l'avis de la population sur les ajustements à apporter au régime. Elle doit normalement se tenir en 2015. Les membres du comité font ensuite une seconde tentative et relancent le Protecteur du citoyen et la CDPDJ. Ils reçoivent une réponse sans équivoque du Protecteur du citoyen qui stipule clairement qu'il n'y a pas eu de faute ou de manquement dans le processus d'adoption législative de la pénalité et que par conséquent, il n'a pas la compétence pour intervenir. La grande consultation publique, qui devait initialement se tenir cette année, est repoussée à plusieurs reprises. Pendant ce temps, Mémo Québec continue d'alerter les médias ainsi que le gouvernement et continue de multiplier les contacts pour trouver des alliés. C'était « Victime de la pénalité, Régent Bergeron et sa femme se sont battus au tribunal pour obtenir réparation », un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad dans le numéro 164 à l'automne 2024.
Nicolas Messier, le premier conseiller en défense des droits assignés au dossier, se souvient d'un immense défi. Un texte de Aline Van Compernol, paru dans le numéro 164 du magazine Paraquad. En 2012, au moment où nous avons été interpellés concernant ce problème, la question n'était sur le radar de personne, se souvient Nicolas Messier, alors conseiller principal en intégration au volet défense des droits à Mémo QC. C'est lui qui a été le premier à travailler sur le dossier avec Walter Zelaya, le directeur, et le comité qui s'est ensuite formé pour discuter de la question. Il est vrai qu'à l'époque, selon Nicolas, les personnes en situation de handicap se rendant à l'âge de 65 ans, l'âge de la retraite, étaient encore peu nombreuses, surtout la clientèle de MémoQC, les personnes lésées médulaires, précise-t-il. Il s'agissait là de la première vague de personnes recevant une rente d'invalidité à se rendre compte du problème. Nicolas Messier se souvient de deux personnes venues lui parler des baisses de revenus qu'elles avaient subies une fois rendues à 65 ans. Le conseiller en intégration se souvient très bien de Jacques Dubois, membre de MémoQC et blessé médulaire de longue date. Un membre qui s'impliquait dans les dossiers qui l'intéressaient et le touchaient personnellement. Ce dernier avait été un des seuls à avoir constaté une pénalité très flagrante. C'était un défi technique d'avoir pu s'en rendre compte. Il était bon avec les chiffres. Cela implique de comprendre vraiment le système financier public, de faire des recherches sur l'historique de la question et de faire le parallèle entre la pénalité au Québec et au Canada, car le Québec est la seule province où cette pénalité est appliquée, explique Nicolas. Après ce constat, il fallait mettre en place un plan d'action. Un comité de travail a donc été créé, comité composé de membres ayant des aptitudes particulières et complémentaires. Par exemple, Marie-Blanche Rémillard connaissait les programmes du Québec. Jean-Pierre Maurier avait des connaissances poussées sur les finances et des liens dans les milieux universitaires et politiques. Il fallait aussi décortiquer la question et essayer de trouver d'autres organismes pour travailler sur le sujet avec MémoQC. Mais personne n'a pris la balle au bon. Ils ne se sont pas sentis concernés, reprend Nicolas Messier. MémoQC a mené le dossier pas mal tout seul au début. Et l'organisme sentait bien, dès le départ, que ce dossier-là représenterait un défi de longue haleine et nécessiterait de multiples interventions. Un dossier très laborieux, un marathon de patience. Malgré un travail acharné, les petites avancées étaient souvent ponctuées de longues périodes de découragement et de frustration. C'était difficile. Ça mettait à l'épreuve mes convictions. Nicolas se souvient de nombreuses démarches pour obtenir de brefs contacts auprès de représentants du gouvernement que des remaniements ministériels ou des élections venaient balayer d'un revers de main. Il était déjà assez difficile de faire comprendre le dossier à quiconque. Même moi qui comprenais très bien le dossier, j'avais souvent du mal à l'expliquer. Et il ne fallait pas imaginer que les représentants d'un ministère remettaient leur dossier en cours à leur successeur. Au fil des années, pourtant, le discours de Nicolas s'est affiné. Il peut désormais résumer son sujet en quelques phrases clés. Il faut comprendre que c'était une pénalité de 33% appliquée aux personnes qui ont dû recourir à la rente d'invalidité entre 60 et 65 ans. Il s'agit de la même pénalité que les gens qui ont choisi de prendre leur retraite anticipée à 60 ans. Après avoir accumulé toutes ces connaissances, le comité a eu la lourde tâche de rédiger un mémoire collectif. Un travail que Nicolas qualifie de monumental. La masse d'informations recueillies était immense et il était important de parvenir à rendre le texte cohérent et juste, tout en se remettant aux chiffres fournis par les professionnels qui avaient effectué les calculs. Il fallait aussi arriver à un consensus et le verbaliser. Dans un document officiel, chaque mot compte. C'est Nicolas Messier qui, au nom de MémoQC, a présenté le dossier devant l'Assemblée nationale, lors d'une consultation publique du régime de rente du Québec en 2017. Il se souvient de l'attention qu'il a reçue des médias. Mais la mobilisation médiatique a pris du temps. Même s'ils avaient été interpellés dès le début du dossier, le sujet semblait tout aussi compliqué pour un journaliste qui l'avait entre les mains que pour les membres du comité au départ. Attirer les médias était ardu. Mobiliser les membres était ardu aussi. Beaucoup de jeunes ne se sentaient pas concernés. La volonté politique semblait là, mais nous attendions les fruits. C'était juste de belles paroles. et l'obstination du gouvernement à faire appel alors qu'ils savaient qu'ils avaient tort, ça a été un écueil et du découragement, se souvient le conseiller en intégration. Une des plus grandes victoires depuis ces dernières années. Voir le dossier repris par ses successeurs au poste en défense des droits, d'abord Sarah Limoges, puis Annabelle Grenon-Fortin, a vraiment impressionné Nicolas, qui y voit également un nouveau souffle. Malgré les ressources limitées et le temps qu'elles y ont consacré, elles n'ont pas lâché et ont reparti la machine. L'ancien conseiller en intégration a rendu son tablier depuis de nombreuses années, mais il a continué à suivre le dossier de loin. Sa fierté n'en a pas été moins grande quand il a appris la nouvelle du retrait de la pénalité. J'ai célébré la victoire. J'étais très fier qu'après tout ce temps, notre travail ait porté ses fruits. Et s'il devait passer un message aux conseillères qui lui ont succédé, il dirait « Bravo les filles, vous avez su garder la flamme allumée et vous assurer que tout le travail fait avant vous ne soit pas perdu. Il faut continuer d'y croire et de travailler pour une conclusion positive. » Il s'agit d'une des plus grandes victoires du milieu associatif de façon concrète depuis ces dernières années. C'était Nicolas Messier, le premier conseiller en défense des droits assigné au dossier, se souvient d'un immense défi. Un texte d'Aline Vancon-Pernol paru dans le numéro 164 du magazine Paraquad.
Angle mort dans l'engagement du ministre des Finances. La lutte n'est pas finie. Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Si l'annonce de l'abolition de la pénalité sur la rente de retraite des aînés en situation de handicap est saluée comme une avancée majeure, plusieurs zones d'ombre subsistent dans l'engagement du ministre des Finances, Éric Girard. Tout d'abord, aucune compensation rétroactive n'a été annoncée. Ensuite, des procédures judiciaires sont toujours en cours pour faire invalider la décision du Tribunal administratif du Québec, TAQ, reconnaissant l'inconstitutionnalité de la pénalité. Le dernier budget provincial prévoit l'abolition de la pénalité de manière exclusivement prospective, ce qui veut dire qu'elle ne sera effective qu'à partir de son entrée en vigueur le 1er janvier 2025. En d'autres termes, aucune compensation rétroactive n'est prévue pour les personnes qui ont subi la pénalité jusqu'à cette date. Or, ces victimes de longue date ont maintenant un âge avancé. Elles sont plus vulnérables et la perte de plusieurs milliers de dollars accumulés chaque année représente, pour elles, une somme considérable. Mémo QC considère qu'une telle omission laisse un nombre significatif de victimes sans réparation équitable. De plus, malgré la décision du TAQ en juillet 2023 qui reconnaît le caractère discriminatoire de la pénalité, le gouvernement continue de contester cette décision auprès de la Cour supérieure. L'audience devant cette cour est prévue en septembre 2025, dans moins d'un an. Cette démarche est non seulement en complète incohérence avec la promesse budgétaire faite en mars 2023, mais elle prolonge aussi l'incertitude pour de nombreuses victimes de la pénalité qui ont contesté l'application devant Retraite Québec et dont les dossiers restent en suspens. Par ailleurs, comme le rappelle l'avocat Maître André Laporte, qui est procureur au dossier depuis 2018, le fait que le dossier dure plusieurs années amène des enjeux. Plusieurs avocats d'expérience très impliqués dans ce litige partent progressivement à la retraite et le vieillissement des victimes est problématique. L'équipe de Mémo QC a fait part de ces questions au ministre des Finances en lui demandant d'interrompre les procédures judiciaires et d'inclure des mesures de réparation rétroactive dans le projet de loi à venir. Ce dernier a répondu en refusant d'émettre tout commentaire par rapport au recours et en réitérant son intention de n'émettre aucune compensation pour la période antérieure au 1er janvier 2025. Ainsi, il faut en conclure que la lutte n'est pas terminée. Conformément à l'engagement de Mémo QC, son équipe de spécialistes en défense des droits continue à travailler aux côtés des autres groupes concernés, de façon à ce que les intérêts des victimes de la pénalité soient défendus et pour garantir une véritable justice pour toutes les personnes concernées. C'était « Angle mort dans l'engagement du ministre des Finances. La lutte n'est pas finie », un texte d'Annabelle Grenon-Fortin paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Crise du logement et personnes handicapées. Un texte d'Adèle Liliane Ngoembe-Nkot, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Cet été, l'équipe de défense des droits de Mémo QC a déployé beaucoup d'efforts et d'énergie pour faire valoir les droits d'Evelyne Claire Ngepi, qui s'est retrouvée sans logement le 1er juillet dernier avec des enfants à charge. Cette situation est arrivée, entre autres, dans des circonstances entourant des changements concernant l'administration du programme de supplément au loyer. Nous avons d'abord fait une sortie médiatique avec notre directeur général, Walter Zeleya. À ce moment, Mme Ngepi et ses enfants étaient hébergés dans un hôtel de Montréal où la plupart des commodités de la chambre n'étaient pas accessibles. La cuisine, la salle de bain et le lit n'étaient pas accessibles. Mme Ngepi ne pouvait pas prendre son bain ou encore circuler aisément. Nous avons demandé aux instances concernées que, dans un premier temps, Mme Ngepi soit logée dans une chambre accessible et, dans un second temps, qu'on lui trouve un logement à long terme. Le dossier étant très complexe, nous avons multiplié les démarches auprès d'intervenants du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, de l'Office municipal d'habitation de Montréal, écrit des lettres aux autorités compétentes, envoyé en copie conforme aux élus provinciaux et municipaux afin de mettre la pression et trouver une solution à ce problème. Cette recherche de logement en situation d'urgence couplée à des dédales administratifs ne laissait rien présager de bon. Toutefois, nos efforts ont porté fruit et Mme Ngepi a pu obtenir un logement subventionné. C'était « Crise du logement et personnes handicapées », un texte d'Adèle Liliane Ngoembe-Nkot, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad.